France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je crois que j'ai appris à écrire non pas en lisant, mais en écoutant de la musique, confie Michel Onfray. On ne le sait peut-être pas, mais la musique a tenu et tient encore une place essentielle dans la vie du philosophe. La réédition de nombreux textes consacrés à la musique dans La danse des simulacres, dans la collection Bouquins, le rappelle avec pertinence. Musique, mais aussi peinture, sculpture, gastronomie, vin, plaisir du corps et de l'esprit sont réunis dans cette anthologie hédoniste. L'occasion pour nous de rencontrer Michel Onfray et de mieux connaître son rapport à la musique. La danse des simulacres, une philosophie du goût, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Un peu de Xenakis pour être sûr d'être bien réveillé. C'était un extrait de Jonchet, l'orchestre philharmonique du Luxembourg, dirigé par Arturo Tamayo. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Xenakis figure parmi les compositeurs que vous citez dans votre, dans cette anthologie de textes, hein, La danse des simulacres, une philosophie du goût, et un compositeur auquel vous êtes sensible. Peut-être, avant de commencer cet entretien, une explication du titre, La danse des simulacres.
Oui, chez les épicuriens, chez Lucrèce en particulier, qui en donne vraiment les détails, il nous explique que le monde est fait d'atomes qui sont dans le vide et qu'il y a des atomes crochus ou lisses ou striés ou etc. Et évidemment, les atomes crochus, ils s'accrochent. C'est pour ça qu'on dit qu'on a des atomes crochus avec quelqu'un. Les atomes lisses, ils ne s'accrochent pas. Voilà pourquoi on n'a pas d'atomes crochus avec les individus. Et lui nous dit, ces ensembles d'atomes constituent ce qu'il appelle des simulacres. Et ces simulacres, ils circulent dans l'air. Enfin, dans le vide d'une certaine manière plutôt, s'il faut être précis, et ils vont jusqu'à nous. C'est-à-dire cette musique que nous venons d'entendre de Xenakis, eh bien, elle est constituée de simulacres, c'est-à-dire d'atomes associés qui arrivent jusque dans mon oreille, ça rentre dans mon cerveau et la perception se fait avec des simulacres. Alors évidemment, ils ne sont pas a priori visibles, audibles toujours, mais il y a une espèce de danse qui se fait comme ça autour de nous. Et il m'a semblé que, pour parler aussi bien de la peinture, de la musique, de la littérature, etc., que finalement le concept de simulacre fonctionnait très bien. Ce sont des particules qui vont, qui viennent, qui circulent. C'est une lecture matérialiste du jugement de goût et de l'esthétique.
Mmh. Alors, ce livre se présente donc comme une anthologie donc de textes. Hein. On croise aussi bien Maria Callas que Gérard Garouste ou que Ernest Pignon-Ernest. On évoque le champagne, le sauterne, l'érotisme, tout un tas des plaisirs du corps et de l'esprit. Et je dis en introduction, sur quelques 1500 pages, on pourra évidemment pas tout aborder. Michel Onfray, je vous propose de nous concentrer plutôt sur la musique et différents textes dans lesquels vous abordez la musique. Et comme chaque chacune de ces expériences, ça commencerait souvent par une expérience personnelle, un exercice d'autobiographie. Comment vous avez découvert le IKEM avec Mola à Bordeaux, mais la musique par Jean-Sébastien Bach et Jésus que ma joie demeure?
Oui, c'est ça. Moi, je crois beaucoup en rencontres. C'est-à-dire, je suis pas du tout un philosophe idéaliste. Et d'ailleurs, votre première question m'a invité à préciser les choses tout de suite. Je suis un philosophe matérialiste. Et le matérialisme suppose qu'il n'y a pas cinq sens, mais qu'il y a un seul sens, qui est le toucher, et qu'il est diversement modifié, comme disaient les philosophes. C'est-à-dire que, finalement, on touche avec les yeux, on touche avec les oreilles, on touche avec le nez, la bouche, etc. Et donc, il y a des gens qui sont des passeurs dans une existence. Bon, j'ai beaucoup dit que mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. Donc, à la maison, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de littérature. Donc je ne nais pas dans un endroit où on me conduit au concert, où on m'amène aux expositions, où on me fait goûter des belles choses ou des bonnes choses. Donc il a fallu que j'apprenne. Et je rends hommage, parce que vous avez raison, c'est une anthologie, ce sont 18 textes esthétiques que j'ai pu écrire pendant une trentaine d'années. Et je rends hommage aux gens qui m'ont initié. Parce qu'effectivement, il y a Jacques Pasquier, qui est un ami peintre, qui m'a initié à la peinture contemporaine. Il y a Sophie Couder qui n'est plus là, mais qui m'avait initié un peu à l'art contemporain. J'étais allé au CAPC de Bordeaux, et elle m'avait fait une visite commentée et guidée du CAPC qui m'avait stupéfait, vraiment. Mmh. C'est parce que je disais des bêtises sur l'art contemporain avant de l'avoir vue, elle. Et puis quand je suis sorti de cet endroit, je ne disais plus les mêmes choses. Il y a eu effectivement, avec mon ami Denis Mola, une initiation à tous les grands vins, tous les grands Bordeaux, mais pas seulement. Et Éric Tanguy, qui est toujours mon ami compositeur, qui m'a initié aussi lui à la musique contemporaine. Et donc je souhaitais dans cette introduction dire qu'un matérialiste, c'est pas quelqu'un qui dit que les idées tombent du ciel, mais elles montent de terre, et elles montent de terre avec des gens qu'on rencontre. Mmh. Et donc de fait, j'ai eu un coup de foudre pour une peinture un jour sans savoir qu'elle était Jacques Pasquier. Puis j'ai rencontré Jacques Pasquier. Mmh. J'ai un jour écouté France Musique dans ma voiture. J'étais jeune prof. Je rentrais de Caen où j'enseignais à Argentan où j'habitais, et j'écoutais toujours France Musique, et à un moment je mets le contact de la voiture, puis à ce moment-là j'entends une musique contemporaine extraordinaire, j'ai un coup de foudre pour cette musique, et puis il y a une désannonce, je crois que c'était Jean-Michel Derrien qui annonçait Éric Tanguy, et puis j'ai fait un petit texte pour dire tout le bien que je pensais de cette musique, et puis j'ai rencontré Éric ensuite. Donc de fait, il n'y a pas d'art pour moi sans les rencontres qui les rendent possibles et qui les permettent.
Et la radio aussi, puisque vous citez régulièrement France Musique, oui. Michel Onfray, qui a permis de faire votre culture musicale.
Absolument, oui. Ouais. Oui, parce que quand effectivement il n'y a pas de musique à la maison, et qu'on n'a pas d'argent pour aller au concert, et qu'on habite un village de 500 habitants où il n'y a jamais aucun concert de musique classique, et qu'éventuellement, plus de ça, s'il y a un concert, c'est payant et qu'on n'a pas d'argent, on a juste ce qu'il faut pour manger, et encore... Il est bien évident qu'on peut pas accéder directement à la musique, mais que l'achat d'une radio d'occasion, je me souviens, une modulation de fréquence, à l'époque c'était un peu rare, aujourd'hui il n'y a plus que ça.
Bien sûr, ouais.
Mais je veux dire que j'avais à cette époque-là découvert France Musique comme une occasion d'éducation populaire, je dirais. Donc on écoutait de la musique, on écoutait des commentaires, on pouvait se faire une culture musicale avec France Musique. Thank you.
Un extrait du mouvement lent du concerto italien de Jean-Sébastien Bach sous les doigts d'Alexandre Tarot au piano, bien évidemment. Michel Onfray, vous citez Bach comme certainement le compositeur que vous placez au-dessus de tous les autres, le compositeur par lequel vous avez vraiment découvert, vous avez eu une sorte de choc quand vous avez découvert la musique dite classique. Et vous évoquez aussi ce mouvement lent du concerto italien, là sous les doigts de Glenn Gould, là on l'a entendu par Alexandre Tarot. Quel rapport vous avez justement, Michel Onfray, avec à la musique de Jean-Sébastien Bach?
J'ai fait une initiation personnelle, enfin la musique, c'est-à-dire quand on a la sociologie qui est la mienne, de fait, je disais tout à l'heure quel rôle avait joué France Musique, mais il y avait aussi l'endroit à Caen où je pouvais emprunter des disques, oui, et où ça. Je partais avec un paquet de disques et où je faisais une éducation personnelle. Donc je faisais, je sais pas, tout l'Équateur, tous les opéras, tous les requiems, et à un moment donné où on arrive à la musique contemporaine, et puis, hélas, on fait vite le tour. Le corpus de la musique classique est assez rapidement... examiné. Alors après, il y avait quelques éditeurs de disques qui faisaient des choses un peu oubliées, mais on comprenait que les choses étaient oubliées. On se disait, bon, on peut ignorer ces musiciens-là, c'est pas forcément... Naxos faisait ça très bien, mais bon... Et à un moment donné, où on se dit, mais finalement, quand on a fait le tour de tout, il reste Bach. Et tout y est, il y a une passacaille que Webern réorchestre, comme ça, et on se dit, mais... Il y a une modernité, alors je dis pas des choses très intéressantes non plus là-dessus, hein, mais il y a une modernité incroyable chez Bach, c'est-à-dire que il a un sens de la verticalité, de l'horizontalité qui fait que c'est du Mondrian, mm-hmm. quasiment, en musique, et que tout s'y trouve, c'est-à-dire que le génie de la composition se retrouve dans toute la technicité de l'école de Vienne, par exemple, mais on retrouve tout aussi bien des Phil Glass, des Steve Reich, la musique répétitive, la musique minimale, enfin tout y est. C'est-à-dire quand on cherche, on se dit, mais il est le père de tous.
Mais alors comment la pensée matérialiste peut-elle appréhender la musique de Bach, Michel Onfray?
Alors je me suis dit un jour, je vais essayer de définir la musique, l'essence de la musique. Ce texte-là n'est pas dans le volume dont vous parlez, mais et je me suis dit, mais si quelqu'un a vu et qu'on lui explique les couleurs, c'est facile de lui expliquer le rouge, le jaune, etc. Mais comment expliquer ce qu'est le rouge à un aveugle? Et je me suis dit, comment peut-on expliquer la musique à un sourd? Et finalement, ben là encore, on est dans la logique des simulacres. Si vous mettez France Musique, par exemple, dans une radio sous un bocal et que vous faites le vide, il n'y aura pas de musique. C'est-à-dire que c'est une façon d'organiser les atomes de l'air, c'est une façon de mettre en relation les atomes d'un corps et les atomes d'une musique via l'air qui porte tout ça. Et d'un seul coup, je dis, bon, bien sûr, ce sont les oreilles qui écoutent, ça paraît un peu évident, mais je pense que c'est surtout le plexus qui écoute. C'est-à-dire qu'il y a des vibrations. Quand vous avez choisi Xenakis, par exemple, c'était une démonstration extraordinaire. Et on se disait, hors micro, effectivement, l'effet du concert, et l'effet de cette musique-là sur le corps. Mm. C'est-à-dire, bien sûr, ça rentre par les oreilles, mais ceci dit, on pourrait se boucher les oreilles, ça rentrerait quand même par le restant du corps, parce que ça anime les nerfs, les muscles, et de la même manière que Bach change, me semble-t-il, il faudrait faire l'expérience dans un hôpital, mais je crois que le rythme cardiaque est modifié quand on écoute Bach, le rythme de la respiration est modifié. C'est-à-dire que tous les rythmes de la nature, tous les rythmes corporels, Bach s'en empare. Et les grands musiciens, pour moi, sont ceux qui s'emparent des rythmes corporels. Ça peut être Sibelius, ça peut être Vivaldi, par exemple, ou ça peut être Rachmaninoff, ou même Wagner, qui sont des gens, alors je parle pas de Mozart ou Haydn, mais qui s'emparent du corps parce que, effectivement, la matière du corps se trouve en relation avec la matière de la musique et qu'il y a là une espèce de chamanisme, mais qui s'explique, hein. Je suis pas de ceux qui, à la Jankélévitch, je convoque l'ineffable, l'indicible, ouais, le je ne sais quoi, le presque rien. Enfin, tous ces concepts pour essayer de dire la musique. Non, je pense que c'est un art de mettre en mouvement des vibrations, et le corps est en vibration, et ce sont des vibrations mises en mouvement par, alors, le compositeur, mais aussi un interprète. Et ces vibrations entrent dans un corps qui vibre aussi et qui va vibrer autrement parce que la musique va le faire vibrer comme ceci plutôt que comme cela.
Et l'esprit n'a pas sa place.
Si, mais simplement l'esprit n'est pas immatériel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de confiscation de tout ce qui est esprit, spiritualité, âme, par le judéo-christianisme, je conçois, hein, en même temps, j'allais dire honneur aux vainqueurs, mais je veux dire, ils ont eu 20 siècles pour eux, mais qui fait que si on est matérialiste, si on est athée, eh bien on n'aurait pas d'âme, on n'aurait pas d'esprit, on n'aurait pas de spiritualité. Bien sûr que si, on peut avoir une âme, un esprit et une spiritualité en étant totalement matérialiste. Simplement, l'âme, elle est matérielle. L'âme de quelqu'un qu'on aime, c'est sa voix, c'est son regard, c'est son style, c'est sa démarche. Quand on a aimé quelqu'un qui n'est plus là, il nous reste un certain nombre de choses de lui, c'est son âme, mais pour moi, elle reste matérielle. Donc, la spiritualité, c'est la même chose. La musique n'est pas pour moi l'occasion d'une spiritualité, c'est l'occasion d'une manifestation du réel dans sa pureté. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le réel a besoin d'objets, et bien avec la musique, le réel a besoin d'un minimum d'objets. C'est l'objet réduit à son maximum, je dirais, pour obtenir une vibration qui, elle, entre en relation avec la vibration corporelle. Donc, vous voyez qu'on peut être, qu'on peut avoir une esthétique matérialiste, hédoniste pour le coup, parce qu'effectivement, cet art de faire vibrer les atomes, normalement, ça doit viser le plaisir ou la jubilation. On a de la jubilation avec Xenakis, on en a aussi avec Bach, ce sont pas exactement les mêmes, parce que d'abord, on a des goûts et des dégoûts, des plaisirs et des déplaisirs. Il y a des musiques un peu au kilomètre qui on se dit, bon, elles sont vraiment faites au kilomètre. C'est pour être de la musique d'ascenseur. Et là, pour le coup, on n'est pas ébranlé pareillement. On n'est même peut-être pas forcément ébranlé. On est même un peu parfois gêné par des musiques qui ne servent qu'à combler un vide, qu'à boucher un trou. Mais les vraies musiques sont les musiques qui secouent l'âme et qui sont en relation justement avec la matérialité de l'âme.
Georg Nigel, bariton, Vanessa Wagner au piano, c'était O Mensch, Gib Acht, extrait d'un cycle de Lieder de Pascal Dussapin qui s'intitule O Mensch. Michel Onfray, ce cycle de Pascal Dussapin, pour annoncer à nos auditeurs que figure dans ce livre, hein, La danse des simulacres, une philosophie du goût, qui qui vient de paraître dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, que paraît donc dans ce livre une correspondance inédite entre vous et Pascal Dussapin, une correspondance échelonnée sur une dizaine d'années. Et par ailleurs, le texte que Pascal Dussapin a mis en musique, évidemment, du Nietzsche, et Nietzsche apparaît très souvent dans vos écrits, dans votre rapport à la musique. On sait d'ailleurs que le philosophe était également compositeur. Cette correspondance avec Pascal Dussapin, elle porte pas que sur la musique, loin s'en faut.
Non. D'abord, je voudrais dire deux mots sur cette pièce qui est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Et ça renvoie à la conception du sublime chez Kant. Enfin, il y a toute une conception du sublime qui est extrêmement intéressante. Et c'est le sublime de la nature. C'est-à-dire que Kant nous dit que quand on est devant un glacier, devant une cataracte, devant un tremblement de terre, devant un volcan, eh bien, on a le sentiment de notre petitesse, un petit peu comme les personnages dans les peintures de Caspar David Friedrich, sont des petits personnages de dos comme ça. Et que la tension qu'il y a entre le petit personnage et la grandeur du spectacle, provoque un sentiment qui est le sentiment du sublime. Et avec cette pièce de Pascal, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le sublime, qu'il y a ce personnage, cette voix, et qu'il y a en même temps un paysage qui est le paysage du silence, de la solitude et de la désolation. Et que cette tension entre le petit personnage et la grande désolation génère un sentiment du sublime. C'est vraiment une très belle pièce. Alors oui, Pascal m'avait envoyé un jour une carte postale, je crois, en me disant, Nietzsche dit, l'oreille, c'est l'organe de la crainte, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc je lui ai répondu assez longuement, puis on s'est répondu, puis on a fait comme ça un échange d'un certain nombre de lettres, et puis c'était resté, on s'était dit qu'on publierait ça un jour, puis on l'a pas fait, puis on l'a fait effectivement, je lui ai demandé l'autorisation de la faire paraître des années après, il m'a gentiment dit oui. Mais oui, c'était des échanges un peu sur tout, même si au départ, on a démarré là-dessus. Pourquoi est-ce qu'effectivement, l'oreille, c'est l'organe de la crainte? Alors, je disais, parce que Nietzsche pense qu'effectivement, à l'origine, les animaux que nous étions étaient à quatre pattes, ne voyaient pas grand-chose, mais entendaient bien. Et que quand on entendait des craintes, finalement, on entendait des peurs. Est-ce qu'il n'y a pas un prédateur dans le coin? Et à ce moment-là, on avait une ouïe extrêmement précise, c'était l'organe de la crainte, on ne voyait pas forcément beaucoup, puis un jour, on devient bipède. Donc, à partir de ce moment-là, on entend moins bien, on sent moins bien, et puis on voit beaucoup mieux. Et il y a une espèce de hiérarchie des sens qui fait qu'effectivement, on va préférer les sens de la vision, parce que c'est le sens de l'hominisation, et donc on adore la peinture, par exemple. Alors que finalement, des sens comme le goût, ou le toucher, ou l'odorat sont des sens plus ignobles, au sens étymologique. Et donc, je lui avais répondu là-dessus, puis après, oui, effectivement, il était une fois en Australie, une fois au Japon, une fois il m'envoyait des petits mots, des cartes, des choses comme ça, et la correspondance était ça, oui.
L'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Simon Rattle, c'était la fin du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Michel Onfray, vous opposez Berlioz, l'hédoniste, à Debussy, l'ascétique. Alors, je reconnais, j'ai un peu triché, parce que oui. On ne peut pas dire que le prélude à l'après-midi d'un faune soit la pièce la plus ascétique de Debussy.
Oui. Non, vous avez raison. Et là, vous me donnez tort.
Non, mais j'ai un peu triché, c'est vrai.
Non, mais en même temps, c'est le jeu. Mais oui, je songe à des pièces beaucoup plus cérébrales de Debussy, en disant qu'il y a, dans certaines études pour piano, par exemple, une ultra-cérébralité. Mais comme je voyais bien que vous me tendiez un piège avec cette musique-là, je l'écoutais avec une oreille différente, en me disant, mais il y a quand même ici une espèce d'étirement des durées qui fait que je suis pas contre ma propre thèse, disant qu'il y a une raréfaction du son. Si vous mettez en perspective le Xenakis qu'on a écouté tout au départ, vous voyez bien que finalement, entre la violence, la brutalité, la multiplicité des périodes chez Xenakis, et là, cette espèce de longue période étirée, pas dire caoutchouteuse, parce que c'est toujours désagréable, c'est pas un joli mot, alors que cette musique est sublime, mais de fait, je pense qu'il y a un moment donné où on voit bien que l'épicentre de la musique... regardez, il y a de la matière dans Xenakis. Alors que Debussy, c'est un peu comme un oignon, c'est-à-dire si vous enlevez toutes les pelures, au milieu de l'oignon, il n'y aura rien du tout. Et on voit bien que, c'est assez bergsonien, en même temps on avait posé la question à Bergson, pour savoir s'il connaissait Debussy ou pas, mais c'est la question du rapport du temps et de la durée, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette musique, elle est construite sur du silence.
C'est la raréfaction.
C'est la raréfaction
du son. Mais ça vous gêne ?
Non, pas du tout. D'accord. Ah non, pas du tout. Mais je dis simplement que ça initie un courant de musique qui va aller jusqu'aux 4 minutes 33 de silence de John Cage. C'est-à-dire une telle raréfaction qu'il n'y aura plus de son, si ce n'est le bruit que les gens vont faire dans la salle pendant ce concert de silence, d'une certaine manière. Et je disais, un Berlioz en face de Debussy va générer justement des gens comme Xenakis. La pièce de Pascal est assez debussiste, en ce sens, et pas du tout. On aurait pu mettre Eric Tanguy, par exemple, et on aurait vu qu'elle était, que sa musique était plus berliozienne, en ce sens. Donc oui, bien sûr, ce sont des facilités un petit peu, parce qu'il y a toujours un moment donné où vous trouvez
un contre-exemple
dans la musique même du personnage. Je pense que par exemple Bourgogne, cette fameuse pièce qui a disparu de Varèse, n'était probablement pas varésienne, et c'est pourquoi d'ailleurs il l'a fait sauter, et probablement un peu plus debussiste aussi, mais il y a effectivement des moments où on voit bien que la quintessence du musicien c'est justement la quête du silence, alors que pour d'autres c'est la quête de la matière. Et vous avez chez Berlioz des choses que vous pouvez mettre en perspective avec d'autres pièces de Debussy, pour le coup. Et là, ma thèse est plus facile à entendre, c'est l'essence du thème.
Très bien, merci beaucoup Michel Onfray. Je rappelle le titre de cet ouvrage, La danse des simulacres, une philosophie du goût, qui vient de paraître chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Jean-Michel Bernot, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.